Bras zéro, brassage radio. La chapelle à Toulouse, c'est un lieu important, toujours disponible pour une assemblée, une rencontre ou une fête de soutien. Un lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle, installé à deux pas du centre-ville, dans une chapelle déconsacrée depuis 1993. Qui a été squattée d'abord pendant 25 ans, puis, pour vous la faire très courte, il y a eu un changement de propriétaire, une préemption par la mairie de Cohen, puis la signature d'un bail emphytéotique sous Moudenc.
On a reçu des membres de la chapelle à Canal Sud quelques fois déjà, et on a même délocalisé Bras zéro là-bas en mai dernier. L'année précédente, en octobre 2024, lors d'une émission appelée La Chapelle pour toujours, vous étiez venu parler de l'appel aux dons, récolter des sous pour acheter collectivement celui indispensable à Toulouse. C'était tout bon et puis finalement non.
On a bien cru un petit appel d'air durant l'entre-deux-tours des élections municipales, qui aurait sans doute au moins facilité notre affaire. Mais les socialistes ont préféré rappeler Moudenc, alors on en est au même point. C'est toujours pas fait.
Donc on vous a invité à nouveau, pour célébrer quand même la réouverture depuis la fin des travaux, et les belles choses qui s'y passent. Et puis pour que vous nous racontiez ce qui s'y passe avec cet achat qui n'aboutit pas. Pour nous faire part de vos espoirs, peut-être même nous partager de bonnes nouvelles, ou pas. Bienvenue en tout cas et bonne écoute. Donc là, ce soir, vous êtes trois, donc liés peut-être de différentes manières à la chapelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous y faites et peut-être, comme c'est notre tradition, nous donner votre petite histoire dans la grande histoire de la chapelle.
Donc moi, je m'appelle Loïc, je fais partie de l'atelier idéal et aussi du collectif de la collégiale de la chapelle. Qu'est-ce que je fais là-bas? Je m'occupe pas mal de tout ce qui est la technique. J'essaye de former tous les collectifs qui viennent rapidement, au moins au son et aux lumières du lieu, pour qu'ils puissent être autonomes sur le lieu. Ma petite histoire, je pense que ça va être plutôt au niveau des travaux quand on a enlevé le plancher qu'il y avait au plafond, puisque c'était plutôt drôle, je trouvais. On était en sécurité avec des baudriers à 10 mètres de haut en train de bosser à plusieurs en alternant et ça fait des bons souvenirs.
Okay. Ah, j'avais pas compris, c'est une vraie petite histoire qu'il faut raconter.
Bon, c'est comme tu veux, ça peut D'accord. être une petite histoire ou ta petite histoire.
Ok. Thomas, voilà, j'étais à Atelier Idéal il y a une quinzaine d'années, là j'y suis plus, je fais partie de. On en parlera un petit peu après, mais maintenant je fais partie du cercle élargi de la chapelle. C'est-à-dire que je suis en soutien du collectif de temps en temps. Et plus récemment, j'ai beaucoup participé à l'écriture des statuts.
Et t'as une petite histoire.
Et la petite, ah oui, ça fait que j'ai pas réfléchi.
Ok.
Tu réfléchis.
Ouais. Alors moi, c'est Américo. Je fais rien à la chapelle. Je suis usager de la chapelle depuis longtemps. D'habitude, j'interview la chapelle. Et je suis venu là parce que Thomas il m'a demandé. Et parce que depuis justement que la vente est un peu bloquée, il y a des assemblées générales et du coup j'y participe en tant que cette invention de la chapelle depuis quelques années, du cercle élargi, c'est-à-dire de personnes qui sont passées par la chapelle, etc., et qui sont appelées par les membres du collectif pour venir en appui et puis avec un autre regard que les gens qui ont les mains dans le cambouis et dans le fer tout le temps, quoi. Voilà. Ma petite histoire, c'est ma préférée parce que moi, la première fois que je suis allé à la chapelle, je jouais dans un groupe de musique. Et à cette époque-là, c'était un squat, quoi. En fait, ils disaient pas squat, ils disaient occupation parce que squat, ça faisait sale. Et du coup, ils louaient le squat pour le collectif Chiapas. Et nous, on était sur scène et nous, on était des squatteurs, on trouvait ça nul. Et du coup, on a dit sur scène que c'était nul de louer la chapelle pour un truc de soutien. Et du coup, on s'est fait engueuler après dans les loges par le chef. Et voilà, c'était ma première fois à la chapelle et puis ça a été un peu longtemps comme ça, des espèces de petites tensions. Et puis c'est marrant parce que depuis que c'est, je trouve que depuis que c'est plus occupé, ça fait plus squat, quoi, je trouve.
Ça tombe bien.
C'est à toi ta petite histoire.
Non, ah bah si, ouais. J'étais passionné par cette histoire.
Bon, alors, je continue les questions. Si jamais t'as une petite histoire qui revient, n'hésite pas.
C'est bon, moi j'en raconte une sur toi.
Allez, vas-y.
Alors, quand on vous a reçu la dernière fois, alors c'était pas vous exactement, mais c'était d'autres personnes de la chapelle, les travaux étaient presque finis et la chapelle n'avait pas encore réouvert. Elle a réouvert il y a quelques mois déjà. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette chapelle depuis qu'elle a réouverte? En gros, quoi. Et puis, si vous avez un truc chouette... quelque chose de chouette qui s'est passé là-bas, qui vous a marqué, et quelque chose d'un peu relou que vous voudriez nous partager?
Bon, la chapelle est rouverte depuis à peu près un an et demi, donc on a validé l'ensemble des normes. Qu'est-ce qui s'y passe? Ça dépend beaucoup des demandes. Des fois, il y a des raisons de théâtre, des fois, il y a des débats, des AG. Les lundis aussi, on a repris ce qui s'appelait à l'époque les lundis de la relâche, où il peut y avoir une petite scène, il y a aussi un repas partagé, il y a aussi... voilà, le jardin est ouvert le lundi, sauf aujourd'hui. Vu qu'aujourd'hui, comme il manquait un peu d'énergie et il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas disponibles, donc aujourd'hui, c'est pas ouvert, mais sinon, on essaie d'être ouvert tous les lundis durant la saison, on va dire. Un truc chouette récemment, il y a 10 jours, il y a eu un cabaret pour TMTG, Southern Madeline to Gaza. Et moi, j'aime bien quand il y a des cabarets avec des agrès aériens, avec pas mal de numéros différents, avec des circassiens, des circassiennes. Je trouve toujours que quand il y a ce genre d'événement, moi, j'apprécie particulièrement. Voilà.
Ok. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose?
De trucs chouettes, pas chouettes?
De trucs chouettes, pas chouettes, ou de, ouais, de ce qui se passe à la chapelle, depuis que ça a réouvert.
Non, mais moi, comme j'ai très peu participé, je peux dire que vraiment les travaux ont été très impressionnants. Enfin, je trouve que cette espèce, cette allée, ces nouveaux. Bon, ces toilettes sont très imposantes, mais ils sont quand même très marrants, très jolis. La gouttière en. Bah, ouais, je trouve ça hyper classe, le travail qui a été fait là. Ça a été vraiment très très long et je sais qu'ils en ont pas mal chié. Et donc, vraiment, pour saluer un peu ce truc, c'est très joli. Bon, il faut encore finir un peu les murs, finir un peu l'isolation phonique, si je peux me permettre. Ce sera le mon petit truc moins chouette. Mais en vrai, c'est vraiment classe, quoi. C'est vraiment très joli et voilà. Bravo à l'équipe.
Non, rien à rajouter, tout a été dit.
Il y a le kiosque aussi qui est à la chapelle, quoi, juste à côté. Il était ouvert pendant les travaux ou il était fermé?
Non, parce que. Que pendant les travaux, c'était plus simple de fermer l'ensemble du lieu, étant donné qu'il y a eu par exemple l'allée en pavé. Donc il y a un moment, on a dû louer une mini-pelle pendant une semaine, il y avait des énormes tranchées, on a fait livrer 30 tonnes de matériaux. Donc le lieu n'était pas réellement praticable. Donc le kiosque a eu pas beaucoup d'activité. Le gros des travaux a été fait pendant à peu près une année complète. Voilà. Où il n'y a pas eu d'événement et le lieu était globalement fermé.
Mais du coup, peut-être pour compléter un peu, là, du coup, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des événements ponctuels, il y a aussi des événements plus réguliers comme la relâche, et il y a aussi donc le kiosque qui est un peu différent collectif asso. Et est-ce que ça, vous voulez nous raconter un peu, c'est quoi l'organisation interne, comment ça se passe, et aussi peut-être tout à l'heure, tu as évoqué les statuts, donc les statuts ont changé, comment ça se passe, est-ce que vous voulez nous raconter un peu tout ça?
Et bien carrément, ouais, donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé là ces deux dernières années. Déjà, il y a des collectifs qui sont, tu l'as dit, hein, il y a le kiosque qui est maintenant là tout le temps, hein, physiquement. Il y a un groupe La Dérive qui est là depuis une dizaine d'années, je dirais, qui est un groupe de militants, militantes plus âgés, qui parle de lutte et qui parle de jazz tous les fin d'après-midi. Et donc ils sont vraiment là depuis un bout de temps. Et
ils font aussi des projections de temps en temps. Donc par exemple, là, mercredi à 18h, il y aura une projection sur un documentaire d'un couple d'artistes qui étaient dans différents lieux, notamment les Hautes-Planches en Normandie. Et donc voilà, là, il y aura une projection mercredi à 18h à la chapelle.
Et ce qui fait que il fallait intégrer tous ces nouveaux ces collectifs plus ou moins nouveaux, en tout cas la chapelle, dans le fonctionnement. Et donc il y a cette histoire de rachat où on s'était dit comment protéger cet achat, comment le faire en sorte que personne puisse prendre le pouvoir par exemple à l'atelier idéal, parce que historiquement ça a été l'atelier idéal qui a toujours géré la chapelle et pris les décisions à la chapelle. Donc c'était un peu comment diluer le pouvoir au sein de plein de collectifs, comment protéger ce lieu en propriété d'usage, et qui évidemment un lieu va être amené à évoluer tout le temps, mais non, pas non plus qu'il change radicalement d'objet. On essaie de faire tout ça, donc on a créé un nouveau fonctionnement, on va pas entrer trop dans le détail, ça serait vraiment très long, mais en gros... L'idée, c'est on a créé une association, La Chapelle, qui est censée, en tout cas, signer le bail amphithéotique il y a 8 ans, et qui est censée signer ce fameux rachat. Et donc cet asso, il y a le CLIP. Le CLIP, c'est un regroupement de lieux qui sont propriétés d'usage. Et ils sont, on ne va pas rentrer non plus dans le détail, mais ils sont principalement là pour poser un veto si on veut revendre la chapelle, en fait, pour en tirer un bénéfice quelconque, ou pas, ne serait-ce que la revendre, tout simplement. Et il y a une collégiale, et donc dans cette collégiale, il y a les collectifs qui utilisent la chapelle. Donc pour l'instant, c'est l'atelier idéal, le kiosque et la dérive. et pourquoi pas la relâche qui vient de là, de qui réexiste, et que si ça continue, bah évidemment ils rentreront dans ce cadre collégial, pourquoi pas. Il y, y a un projet de four à pain, enfin bref, tous les gens qui utilisent de manière régulière la chapelle seront invités à intéresser cette collégiale. Et il y a un collectif dont on a parlé un peu à Mérico tout à l'heure, qui est le cercle élargi. Donc c'est des anciens anciennes de l'atelier de la relâche et des gens qui ont gravité ou qui gravitent toujours autour de la chapelle et dont la vie nous intéresse. Et donc c'est
pas un collectif.
Qui n'est pas un collectif, pardon, qui est un collège. Okay, wow. C'est un collège au sein des statuts, bon, pour rentrer dans le détail vraiment des statuts. Et donc l'idée, c'est que si on veut toucher à ces statuts, si on veut exclure un collectif, si on veut admettre un collectif, si on veut, enfin tout ça, il faut le prendre au consensus de tous ces collectifs et ce collège. Donc voilà, très rapide, on ne va pas rentrer dans le détail des statuts, mais c'est un peu ça. Donc vraiment, deux idées, c'est que les autres collectifs maintenant ont un réel pouvoir, enfin un réel pouvoir, en tout cas clairement leur mot à dire sur ce qui se passe à la chapelle. Et donc évidemment, en ce moment, il y a plein de choses qui s'y passent, par rapport à ce rachat, et vraiment de diluer le pouvoir. L'idée, c'est que, enfin, c'est peut-être c'est pas facile, mais on peut quand même prendre le pouvoir au sein d'un collectif, mais au sein de 4 collectifs, 5 collectifs, ça commence à être compliqué. Donc ça permet un peu de s'auto-réguler, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de diluer tout ça.
Avec cette idée de mettre à distance la propriété privée pour rester en propriété d'usage, quoi. L'idée, en fait, c'est que finalement, gère le lieu, utilise le lieu, font vivre le lieu des collectifs qui ne sont pas les propriétaires. C'est la chapelle qui est propriétaire de la chapelle, mais c'est, voilà, ces usagers et usagères sont finalement ceux qui dirigent le truc. Voilà, c'est un espèce de truc comme ça, quoi.
Vraiment. Et après, dans le fonctionnement général, enfin, après, il y a pas. Ouais, il y a des, comment, les réunions, je sais plus, les réunions
hebdomadaires.
Non, mais les réunions de intercollectif, l'interco.
L'interco.
Et donc l'interco, parce que évidemment dans ces grosses AG, on parle de sujets comme le rachat, tout ça. Mais donc tout ce qui est quotidien, le cercle élargi n'a pas spécialement, enfin on a pas du tout de mot à dire, on n'est pas là du tout le quotidien. Donc il y a vraiment en termes d'organisation, cet interco qui gère le lieu, physiquement et tout. Et évidemment l'atelier qui toujours traite les demandes et gère le lieu spécifique, la chapelle. Et ça va pas changer, quoi. Mm-hmm.
Ça veut dire que si on veut organiser un événement à la chapelle, on écrit un mail à l'atelier d'art.
Toujours, toujours. Et ce sera traité le mercredi soir.
Très bien. Ok, et donc la dernière fois aussi qu'on avait reçu des personnes de la chapelle, vous étiez en pleine récolte de fonds et donc de montage juridique aussi, avec cette idée d'achat collectif et de propriété d'usage. Finalement, la somme qu'il fallait obtenir a été obtenue. Les travaux, donc vous l'avez dit, les travaux de remise aux normes ont été faits jusqu'au bout. Et donc c'est bon.
Est-ce que la chapelle est à nous?
Oui. Pas encore. D'un point de vue pratique, oui, puisqu'on est dedans, on l'utilise, etc., etc. Après, pour des logiques de propriété, donc en fait, historiquement, on avait un bail emphytéotique avec une promesse de rente à l'intérieur qui était conditionnée au fait qu'on mette le lieu aux normes, avec aussi un prix d'achat.
Est-ce que tu peux dire un bail emphytéotique, ce que c'est?
C'est un bail qui vient du droit rural. On a les devoirs et les droits et devoirs d'un propriétaire, et c'est minimum 20 ans, avec un loyer modéré. Donc nous, on a signé un bail de 40 ans avec un loyer annuel de 500 ans. L'objectif était 500 euros. Et l'objectif, c'était qu'on entretienne le bâtiment et qu'on le remette aux normes, quoi. Donc ce qu'on a fait, on l'a à la fois remis aux normes, on a refait aussi toute la toiture, etc., etc. Et donc nous, on a fait l'ensemble des travaux, on a récupéré les sous. Donc après, comme il y avait eu une promesse de vente, nous, on a fait une levée d'options d'achat. Donc celle-là, elle a été bien reçue par la mairie, puisque historiquement, actuellement, c'est la mairie qui est propriétaire. Et donc après cette levée d'options, donc il y a eu des discussions entre notaires qui ont pris un peu de temps, parce que notamment la mairie voulait rajouter une clause comme quoi si on souhaitait vendre, on devait d'abord le reproposer à la mairie, ce qui nous dérangeait pas tant que ça. Et donc on s'attendait à passer au conseil municipal en septembre 2025. Et au final, ça a été décalé. On ne savait pas pourquoi, donc c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à faire un courrier à Jean-Luc Boudinque. On n'a toujours pas eu de réponse, et donc après il y a eu certains événements, il y a eu la CAP partie, il y a eu un arrêté d'interdiction sur la CAP partie, donc on a dû arrêter un événement où c'était une conférence avec une sociologue suite à un arrêté d'interdiction de la mairie. Et après ça, on a donc reçu un courrier qui nous indiquait que, grosso modo, ils souhaitaient plus nous vendre parce qu'on avait fait un certain nombre d'événements qui leur avaient déplu, Et typiquement, il y a eu une AG contre le racisme d'État. Et ils ont considéré que si on fait une AG contre le racisme d'État, ça veut dire qu'on est contre l'État. Et comme l'État est garant de l'intérêt général, on n'est par défaut pas d'intérêt général. Donc c'est un peu un raisonnement très alambiqué. Mais donc, et suite à ça, en conseil municipal, avant les élections municipales, Moudinque a pris un arrêté disant que la promesse de vente était suspendue pendant 3 ans, sans aucun, enfin, de notre point de vue, sans aucune base juridique. Et donc, pour l'instant, nous, on essaie de préparer la suite.
Et du coup, en invoquant le fait que donc vous ne seriez pas d'intérêt général, du coup, c'était pas possible de vous vendre, c'est ça ?
Alors, le courrier était même un peu plus détaillé, donc c'était à la fois ça, et aussi, il considérait que le prix d'achat de 100 000 euros était beaucoup plus faible que la valeur actuelle du bien, qui est évaluée de mémoire dans les 400 000 euros, sachant qu'il prenait en considération les travaux qu'on a effectués bénévolement.
Ouais, pour préciser ça, en fait, dans la lettre, ils disent la préfecture nous a informé qu'il ferait recours sur la vente si elle a lieu à ce prix-là, parce que le prix est inférieur au prix du marché qui est estimé à 469 000 euros, un truc comme ça, et des brouettes, quoi. Donc le prix de vente, c'est 120 000, hein, pour rappel, 120 000. Hein,
c'est 100 000 plus les frais de notaire.
100 000 plus les frais de notaire. Et du coup, que la mairie pouvait vendre, que ne pouvait baisser le prix qu'en cas, que avec le fait de l'intérêt général, qu'en invoquant l'intérêt général. Et donc, à partir de là, ils disent ce que tu as déjà dit, que je ne vais pas répéter, que bon, en fait, vous n'êtes pas du tout d'intérêt général, vous vous dites du mal de l'État, c'est mal et tout, tout ça. Et à partir de là, ils disent, du coup, on ne peut pas vous vendre, ou en tout cas, on peut vous vendre qu'à 469 000 balles. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, ils ne nous proposent pas non plus de nous vendre à 469, 429 ou je ne sais pas combien. Ils disent, on ne va pas vous vendre. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu commençais à dire, moi, que je trouve aussi intéressant, c'est qu'au moment où le prix il avait été baissé, il avait été à 100 000 à cet endroit, à ce moment-là, parce que c'était pour prendre en compte les travaux qui avaient été faits dans la chapelle depuis 35 ans ou 30 ans à l'époque.
Et qui allaient être faits surtout.
Et qui allaient être faits.
Et l'engagement de mise aux normes que nous, on n'a pas demandé d'argent à la coup. Et qui ont été faits, d'accord. Mais parce que nous, on n'a jamais demandé de subvention. Et donc, l'idée, c'était ça, c'est qu'on se dit, nous, on ne vous demande toujours pas d'argent. On va mettre aux normes nous-mêmes. On se débrouille tout seul. Par contre, on baisse le prix, on demande à baisser le prix. Du rachat. Et ça n'a jamais été un truc à l'époque, il n'y a jamais été question de. Parce qu'on est d'intérêt général, on nous fait une fleur et tout. Évidemment que Moudinque a signé le bail, mais sans apprécier plus que ça, quoi.
En fait, de mémoire, à l'époque, la mairie avait racheté 230 000. Après, comme c'était quelques années après, quand on a signé, le lieu est évalué à 330 000, moins 100 000 euros parce qu'il était squatté. Plus 100 000 euros parce que c'était nous les squatteurs et que c'était à nous qu'ils allaient signer et vendre. Et donc, dès ces 330 000, nous, on a déduit l'ensemble des frais qu'on allait faire, à la fois tous les matériaux, le temps bénévole. Et c'est même des techniciens de la mairie à l'époque qui nous avaient dit de faire ça. Et donc, on a négocié avec la mairie. À la fin, nous, on était dans les 88 000 euros et la mairie avait un calcul un peu différent et on a coupé la poire en deux à 100 000 euros. Quoi.
C'était la mairie de Moudinque ?
Oui. Oui.
Donc c'est du travail accumulé à l'intérieur de la chapelle qui vaut ce prix-là et pas cette histoire d'intérêt général qui est inventée aujourd'hui par la préfecture et la mairie.
Parce que ouais, c'est important de dire que c'est vraiment les deux. L'attaque, elle est vraiment conjointe. Et c'est Moudinque qui l'a dit au conseil municipal, le conseil municipal où ils ont validé la suspension de...
En janvier,
la suspension de la vente. C'est clairement Moudinque qui dit, en fait, on a eu plein d'appels de la préfecture, il y a eu beaucoup d'échanges. Donc c'est la préfecture qui a alerté et qui a au mois de septembre. Il dit pas que c'est au mois de septembre, mais on pense que c'est à ce moment-là, vu que ça devait passer au conseil municipal et que d'un coup ça a été retiré de l'ordre du jour.
Mm-hmm. Là, quand on rembobine du coup un peu l'histoire, on se retrouve avec une caméra qui a été mise devant le lieu quand des pseudo-fascistes ou je sais pas quoi là, qui ont tagué la chapelle. Là à ce moment-là ils mettent une caméra.
Donc ça, c'est en 2025, il y a des tags du coup
ouais, à l'été, quoi.
Sur la...
C'est ça, hein,
quoi.
C'est pendant l'été, je crois.
C'était suite au fait qu'il y ait Némésis à Toulouse, où en fait, il y avait eu une AG contre Némésis à la chapelle. Et de mémoire, 10 jours après, il y avait des tags néo-nazis de certains hooligans d'extrême droite, de football, etc.
Voilà. Du coup, il y a ça. Et ensuite, pendant le mouvement du 10 septembre, la chapelle est attaquée par la BAC, assiégée, etc. La rue est gazée plusieurs fois. Le 10 et le 17, en fait.
les deux fois, hein, il me semble.
Parce qu'il y avait un repas le midi pour les gens.
Oui, non,
pour
y les avait, gens. Il y avait des vraies raisons. Oui,
et, non, non, il y avait un repas. Parce qu'il y avait un repas et des gardes d'enfants
et la crèche. Et la crèche.
Normal.
Normal. Oui, non, mais c'est vrai. C'est, non, ils n'étaient pas là pour.
Soyons justes.
Sécurité, quoi.
Il y a toujours, c'est toujours une réaction, en fait. Voilà, ils se défendent.
Du coup, ça, c'est un peu toi, tu dis, un peu une suite de plein de trucs là qui s'accumulent. Et du coup, l'aboutissement, c'est en septembre, il y a ce communiqué comme quoi, finalement, l'acte de vente n'est pas validé, quoi.
Mais en tout cas, ça vaut le coup de le prendre dans l'ensemble. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il y a quand même il y a cette interdiction le 13 décembre qui fait qu'à un moment, il y a quand même plein de choses qui s'accumulent où les pouvoirs publics, de manière générale, attaquent le lieu au moment où tout est dans le vert. Pour qu'il y ait un cran en plus dans la sécurisation du lieu pour l'usage qui en est fait depuis 33 ans. Bon, on peut se dire qu'ils ne sont peut-être pas d'accord. Peut-être.
Parce que médiatiquement, tout est sorti au moment où la CAP est partie. C'est là que Bounak a commencé à faire plein de tweets, à dire en fait, je commence à m'interroger et tout. Et en fait, ce qu'il dit au conseil municipal un mois après, et ce qu'on m'attend, c'est sûr, c'est que ça date bien avant et que déjà c'est pas lui, c'est la préfecture et lui, et qu'il y a plein d'autres raisons un peu obscures. Donc ils en citent quatre dans leur communiqué, ou je sais pas, dans leur réponse. Oui. Je sais pas comment c'est, une lettre à la chapelle. Ils citent quatre événements, et ils citent pas le 10 septembre par exemple. Mais tout ça est bizarre. Enfin, en tout cas, c'est bien plus vieux qu'à partie. Ils ont un peu sauté sur cet événement-là parce que c'est élection, je sais pas quoi. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la tête. Mais c'est antérieur à ça, quoi.
On va peut-être faire une petite pause musicale. C'est une chanson de Mano Charlemagne. Je regarde Mathilde à la technique si c'est celle-là. C'est toi qui l'as choisi, Thomas, peut-être tu veux nous dire un mot dessus. Non, tu veux pas nous dire un mot dessus.
Si je peux dire, justement, la petite histoire, c'est que moi, en tout cas, on m'a dit, en fait, j'ai pas envie de dire de conneries, c'est pour ça, mais j'essaie de penser à un morceau qui faisait penser à la chapelle, et apparemment, je crois qu'il est venu jouer à la chapelle avant que j'y arrive. Et c'est une histoire qu'on m'a racontée plein de fois, mais comme j'ai oublié, ça a popé tout à l'heure, en disant que ce serait marrant de le réécouter. Et j'espère que ça fera plaisir aux anciens, anciennes de la chapelle qui écoutent cette émission. Ça rappellera des souvenirs.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Quand les princes du port gardent en main le sort ami, de milliers d'exilés mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville, les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix amies qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
La petite histoire, c'est la petite histoire. Alors, c'est très marrant. La première fois que je suis monté maintenant on voit totalement la charpente de la chapelle. Je sais pas si c'est devenu récemment, mais comme disait Loïc d'ailleurs, tout le toit était, le plafond était pété. Mais avant c'était donc fermé et donc on pouvait monter dans ce grenier, je sais pas comment on appelle ça. Et il y a toujours eu une chaise avec une bière qui était là. Non, t'inquiète. il y a pendant 15 ans, il y a une chaise avec une bière vide qui était posée là pendant. Parce qu'en fait, une fois, apparemment, encore une légende, j'aime bien raconter les légendes quand j'étais pas là, il y a un accordéoniste qui serait descendu du toit, comme ça, accroché pour un événement. Et donc, il aurait squatté là en attendant son moment, en buvant sa bière, et il serait descendu du ciel de la chapelle pour je sais pas quel événement, je sais plus quoi, quelqu'une nous dira, nous racontera.
En oubliant sa bière.
Et en bas, ouais, ouais, soit ça va pour lui, soit il l'a vidé, parce qu'elle était quand même vide quand je suis allé. Donc, il y a eu pendant 15 ans une chaise et une bière dans le grenier que personne n'a eu le courage de redescendre. Voilà la petite histoire.
C'est ouais. Possible.
C'est possible.
Moi, je peux.
Ouais. Ouais. Vous parlez d'une lettre tout à l'heure qui avait été que vous avez envoyée à Moudin qui a, il y a un an, si j'ai bien compris. Ou il y en a une autre avant. Bref, si vous aviez une lettre à écrire à Moudin que maintenant, vous auriez envie de lui dire quoi?
Félicitations.
Belle campagne. bah, je sais pas, au moins tenir sa promesse, quoi. Enfin, de. Je sais pas, mais ça, on l'a déjà dit.
Il y a à la fois une promesse, mais de base, ça restait une promesse de vente qui a été validée par notaire, etc. Donc, il y a un moment, c'est un. Contractuellement, on a du mal à comprendre comment il s'arroge le droit de passer là-dessus.
Moi, ce que j'ai envie de lui dire n'est pas autorisé publiquement. Je suis désolé. Vraiment, ça sera avec joie. Vraiment avec joie, mais je vous laisse l'imaginer. Mais c'est pas autorisé publiquement. Vraiment, quoi. Voilà, ouais, si on peut l'écrire. Je peux l'écrire. Allô ?
Mais on le mettra pas sur le site web de la radio.
Parce qu'il y a d'autres petites histoires. Il y a un maire de Toulouse qui est venu parler à la chapelle une fois.
Ah oui ? Ouais. Tu vas nous raconter ça ?
Ouais, Cohen est venu lire. Est venu lire. L'expulsion, parce qu'au moment où il lisait Les Misérables. Est venu lire l'expulsion à la cloche de bois, le déménagement à la cloche de bois qui est dans Les Misérables. Donc c'est Cohen qui est venu le lire à l'époque. Et voilà, j'ai toujours été très choqué par cette histoire.
C'est très choqué que cela.
Bah ouais, choquant. Je trouve que c'est choquant. c'est même socialiste qu'ont voté Jean-Luc Moudin, quoi. Il faut le dire.
Oui, ça clairement.
Voilà. C'est un lieu complexe, la chapelle.
Ah, Mariko est là pour régler ses comptes.
Ça marche pas.
Mais à l'époque, non, on peut quand même répondre à Mariko. À l'époque, justement, on demandait les signatures d'un bailleur phytotique avant que l'élection, la prochaine élection municipale, parce qu'il avait signé, il les avait rachetés peu avant l'élection. Donc on disait, ben en fait, il faut signer le bail parce qu'on ne sait pas si Cohen allait être réélu. Et donc on avait fait un événement, Les Misérables, comme on fait de temps en temps à la chapelle, des événements un peu politico-artistiques pour un peu discuter avec une lettre ouverte en disant, bah, il faut signer, il faut nous protéger et tout. Et par provocation, alors avec le temps, voilà, on sait que c'était mauvaise idée, mais par provocation, on a invité Moudin à cette lecture. Et bien malin, il a accepté de venir et il a lu un petit passage. Donc voilà, il est venu, il s'est fait pas mal insulter par des copines qui étaient là, bien justement, et c'était très chouette. Et voilà l'explication.
La question suivante, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont du coup en train de se mettre en place concrètement pour finaliser cet achat, comment est-ce qu'il y a une organisation, comment ça se passe?
Oui, ça veut dire que collectivement, on a étudié les différentes possibilités qui nous s'offraient à nous, notamment d'un point de vue juridique, et on est en train de se préparer sur ce terrain-là pour justement s'assurer que la vente soit effectuée comme elle avait été signée, comme elle avait été validée par les services techniques de la mairie. Et comme historiquement, le conseil municipal, il y a 7 ans qu'on a signé le bail en phytotique, l'avait validé, quoi. Et de notre côté, nous, on a l'ensemble des courriers qui sont disponibles, qui indiquent que nous, on a tout fait dans les clous, et donc on comprend toujours pas pourquoi on est dans cette situation-là.
Mmh. Il y a une option juridique, ouais. Il y a une option juridique qui est en train d'être étudiée et travaillée par une commission. Et à côté de ça, bah, donc il y a une lettre qui a été écrite, qui a été envoyée, une lettre ouverte, qui est envoyée il y a 15 jours maintenant, pour un peu raconter ce qui s'y passe, un peu dénoncer l'attitude de la mairie et de la préfecture. Et, Et bien aussi un appel à soutien un peu général, quoi, de un peu appeler les gens qui ont utilisé la chapelle. Enfin, évidemment, en 30 ans, 33 ans, il y en a eu pas mal. Donc un peu de raconter à ces gens ce qui s'y passe, ce qui s'est passé là, et peut-être de dire que peut-être falloir, enfin on sait pas hein, de qu'est-ce qui arrive, mais peut-être falloir se battre pour la garder, quoi. Donc se préparer à ça. Donc on est en train de, voilà, de faire tout ça et on organise un petit événement pour réfléchir parce que voilà, l'attaque qui nous est faite à nous, c'est par rapport à l'intérêt général, mais évidemment qu'il y a une répression qui est faite auprès de plein de, enfin, contre plein d'associations, de collectifs divers et variés partout en France. Et donc ils attaquent pour plein de biais différents, ça peut être les subventions et tout. Et donc on organise un événement en deux temps très prochainement.
On met
en mai.
Mais peut-être du coup de faire un peu le lien en fait de ce qui se passe. En tout cas moi personnellement, je trouve que ce qui se passe là maintenant à la chapelle, l'interdiction, c'est vraiment lié à une manière de faire au niveau national où de plus en plus l'administration se permet d'attaquer des activités au nom de diverses raisons. Alors c'est soit ça enlève des subventions, ça enlève des accréditations, etc. Le planning familial a été attaqué à divers endroits. Ça peut être aussi des événements qui sont attaqués. Il y avait, pour aller assez récemment, c'était l'Antifa Fest à Lyon qui avait été attaqué, où la préfète avait lu les morceaux de rap et avait dit, voilà, c'est pas possible qu'on dise ça et ça et ça sur la scène, quoi. Toute une série d'attaques un peu assez insidieuses, dont justement un observatoire qui s'est monté parce que ça faisait un moment que ça arrivait, en fait. Alors, évidemment, en première ligne, il y a eu les associations musulmanes. Il y a eu le, je sais pas si vous vous rappelez, mais la dissolution, je me rappelle plus de la chronique exacte, mais du conseil du comité contre l'islamophobie en France, qui avait été dissous sur des raisons obscures. Voilà, il y avait eu tout un pataquès autour de ça. Et en fait, il y a aussi beaucoup de militants de quartier. C'est-à-dire qui vivent dans des quartiers et militants par exemple sur le logement, qui se font attaquer parce que ils auraient des accointances, ils seraient musulmans, etc., etc. Et on vient les affaiblir comme ça, on vient les etc. Donc c'est quelque chose qui vient, donc se monte un observatoire en 2020, quelque chose comme ça. Donc ça vient de loin quand même, un observatoire sur les libertés associatives qui ont écrit un livre il y a pas longtemps, l'année dernière, je crois qu'il est sorti en 2025 ou 2024, l'État contre les associations, où ils font un peu le tour de tout ça, quoi. Et on se rend compte, dans le tour qu'ils ont fait, que ce qui se passe, c'est qu'on a l'état d'urgence des attentats de 2015 qui s'est infusé dans la loi et qui a donné de plus en plus de pouvoir au préfet, à l'administration. Et quand on veut imaginer c'est quoi de plus en plus de pouvoir au préfet, en fait, il y a deux événements qui font un peu paradigme. C'est les gilets jaunes. Vous vous rappelez toutes ces interdictions, les interdictions de manifestation, les gens qui sont interdits d'aller à certains endroits, etc. Voilà, tout un tas de décisions administratives qui interdisent à des gens les interdictions, les amendes, vous savez, les amendes quand on protestait à certains endroits, etc. Donc voilà, tout un tas de trucs administratifs qui viennent faire chier les gens et les empêcher de faire des choses. Et l'autre moment où ça s'est aussi pas mal développé, c'est les différents confinements autour de la pandémie de Covid-19. Donc, et là aussi, on a vu le caractère très inventif de l'administration pour faire chier les gens.
Il y a aussi les mouvements écologistes qui ont été réprimés. Il y a eu aussi, pendant les Jeux Olympiques, il y a eu des intermittents qui ont été empêchés de travailler à Paris sur les Jeux Olympiques parce qu'ils avaient, ils avaient fait une manifestation 5-10 ans avant. Donc, avec plein de raisons, ils n'étaient même pas au courant. Et il y a eu plein de répressions différentes, quoi.
Ouais. Et après, dans le caractère administratif, en fait, par exemple, on a les centres de rétention administrative
C'est-à-dire, toute la chasse aux sans-papiers, elle est faite aussi au nom de l'administration, etc. C'est-à-dire, en dehors du contradictoire, en dehors, alors on pense ce qu'on pense de la justice, tout n'est pas, on ne peut pas tout dire à la radio, mais toujours est-il que cet état de droit, il protège un petit peu à certains moments, et quand on le fait sauter, c'est pas pour le bien, quoi. Et là, s'il y a vraiment des trucs qui sautent, et il me semble, en tout cas, que ça vaut le coup, même si c'est un tout petit truc, la chapelle, au final, hein, parce que quand on regarde comme ça, on se dit, ouais, les meurtres aux frontières, les machins, etc., les interdictions manifestées, la chapelle, au final. Mais en même temps, c'est le petit bout qu'on tient, faut pas le lâcher, quoi. Voilà. Petit tunnel.
Donc on part sur deux événements. De réflexion, de discussion. Enfin, on n'a pas aussi parlé. Il y a eu un rapport de la LDH qui est sorti il y a combien de temps ? Il y a un mois, deux mois ?
Il y a un mois,
mois et demi. De LDH qui fait un état des lieux de un peu la répression de plein de collectifs, d'associations sur Toulouse. C'est vraiment spécifique à Toulouse, donc ça parle évidemment de la Chapelle. Ça peut parler aussi de centres sociaux à Bagatelle, Faouret et tout, qui ont été embêtés parce qu'ils. Pour donner un exemple, parce que c'est une histoire que je connais, il y a eu une bibliothèque municipale qui a fermé à Bagatelle. Et donc, il y a deux centres sociaux qui se sont dit, c'était en amont, que ça faisait juste d'être annoncé. Ils ont dit, on va faire une réunion publique pour parler de ça avec les habitants habitantes. C'est des gens qui travaillent avec les habitants habitantes au quotidien et qui, voilà, c'est, on en parle, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire et tout. Et ils se sont fait directement taper sur le doigt par la mairie en disant, mais vous n'êtes pas là pour faire du politique et vous êtes des partenaires, pas une opposition. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Là, il y a une vingtaine qui racontent ça. Et donc l'idée, c'est que le 13 mai, mercredi 13 mai, on invite donc des gens qui ont écrit ce rapport avec plusieurs collectifs qu'on est en train de contacter. Donc on va pas, comme on n'a pas encore les réponses de ces collectifs, on ne va pas vous les dire. Mais avec deux, trois collectifs, et l'idée, ce sera sous forme de pato radio, de discuter un peu de ce qui leur arrive, et de parler de cette répression, de différentes formes que peut avoir cette répression en fonction de qui on est et tout. Et donc le 27 mai, c'est un mercredi aussi, on va inviter
Antonio Delfini.
Antonio Delfini, donc, qui a écrit le livre dont on parlait Américo tout à l'heure, pour parler là, plutôt d'un point de vue plus national, et aussi il apporte un peu, quelques réponses, des propositions pour des luttes et tout, comment répondre à ça, quoi, et se défendre par rapport à ça. Et donc voilà, c'est deux moments pour... on va inviter un maximum aussi de collectifs juste à être là dans la salle qu'on discute entre nous et pour essayer d'avancer ensemble et aussi évidemment parler de ce qui se passe à la chapelle et de voir qu'est-ce qu'on fait tous et toutes ensemble.
Et parce qu'on parle d'intérêt général depuis tout à l'heure, peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que ça veut dire, c'est quoi être d'intérêt général, pourquoi la chapelle serait d'intérêt général ou ne le serait pas?
C'est une bonne question.
C'est une décision du prince.
Hein?
C'est une décision du prince, l'intérêt général.
Ouais.
C'est soit les impôts. Basiquement, en fait, c'est jamais défini, l'intérêt général. C'est jamais vraiment défini. C'est les impôts qui peuvent donner, accréditer à un moment l'intérêt général pour avoir une déduction fiscale de 60% des dons, ce qui est quand même pas mal. Hein, voilà. Némésis. Comité, cette association fémonationaliste dont on a déjà parlé, aurait l'intérêt général. En tout cas, il y a un article de l'Humanité qui s'en émouvait il y a quelques années, il y a quelques mois, en disant que c'était quand même problématique. Je crois que c'est Coquerel, le député LFI, qui avait soulevé ce problème-là. Bon, est-ce qu'elles l'ont encore? Est-ce qu'elles l'ont pas? Est-ce que c'est parti, etc. Donc bon, voilà. Moi, j'ai entendu il y a pas longtemps la Légion des volontaires français. Peut-être on a oublié aujourd'hui, mais c'est intéressant quand on parle de l'extrême droite. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en 39-40, où c'est un peu les gens qui sont allés ensuite devenir les nazis français, qui sont allés ensuite faire des massacres à l'Est, étaient aussi d'intérêt général. L'intérêt général, c'est vraiment, d'une certaine manière, le fait du prince. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, c'est que c'est aussi une caractéristique philosophique de dire, en fait, l'intérêt général, c'est tout ce qui n'est pas intérêt particulier. C'est tout ce qui va nous dépasser un peu les uns les autres. Voilà. C'est tout ce qui... c'est du coup une idée assez importante, révolutionnaire de la chose publique, quoi. C'est tout ce qui est au-delà. Voilà, au-delà de chacun, chacune, etc. Et en France, qu'est-ce qui est au-delà de tout le monde, un peu au-dessus de tout le monde, et un peu... Attention. C'est l'État.
J'aime bien.
Ah, on l'avait.
Donc souvent c'est ça. Et ce qui est intéressant, alors moi c'est moi j'ai juste lu un peu comme ça, je suis vraiment pas spécialiste de trucs là, mais ce qui est intéressant c'est que l'intérêt général il remplace une autre notion qui à la fois était importante, qui était la chose commune. C'est-à-dire cette idée à un moment qu'on a finalement qu'on fait communauté autour de certains intérêts communs, autour de certaines choses, etc. Et que là finalement on va déposséder Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'intérêt général, c'est aussi ce qui va alimenter ce qui s'appelle l'utilité publique et les déclarations d'utilité publique, ce qui permet à l'État de déroger au droit. C'est ce qui permet, la déclaration d'utilité publique, c'est ce qui permet à l'État d'exproprier, par exemple. C'est-à-dire d'attaquer le droit de propriété.
Alors on se dit, c'est quand même un fondement de notre État, quoi.
Et ça, c'est les trucs qu'on retrouve sur les ZAD,
Bien sûr, exactement.
Les trucs la 69 et tout, où il invoque l'utilité publique pour pouvoir faire ce qu'il veut, quoi.
C'est ça. Et des déclarations d'utilité publique, encore une fois, c'est le fait du prince. C'est il y a toute une histoire. Il y a un livre qui s'appelle Inutilité publique d'un historien qui s'appelle Graber. Qui est hyper intéressant pour ça, parce qu'il fait la généalogie de toutes ces enquêtes d'utilité publique dans laquelle le silence est une affirmation de consentement. C'est-à-dire, on a dit à tout le monde qu'on allait faire ça, les gens ne sont pas venus nous répondre, ils ne sont pas venus, etc. Donc, ils sont d'accord.
Avec des enquêtes, avec des... Comment ils appellent ça, là, des réunions
des enquêtes publiques, réunions publiques, etc.
Voilà. Tout est déjà prémâché. Enfin, vous avez déjà vu ça. On a vu ça par rapport au projet Tézo. Vous vous rappelez, c'était en haut là dans la grande salle. Et donc on voit bien que si on critique ça, si on critique, ce que dit cette lettre au final, c'est que si on critique l'État, si on critique, je sais pas, l'aéroport, si voilà, on n'a pas le droit parce que c'est lui qui est garant. Enfin, il y a une espèce de truc qui se mord. Enfin, en fait, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Et dès qu'on critique, on est mis dehors. Enfin, quasiment, on n'a plus le droit là. Parce que ce qu'ils disent quand même pendant le conseil municipal, au mois de janvier, c'est que donc là, c'est pas Moudin, que c'est son élu, comment il s'appelle, l'élu là, qui gère le patrimoine là. Enfin, qui gérait, je sais pas s'il est resté, mais. Tu sais, le mec qui est avocat là. Bon, peu importe.
Arsac.
Non. L'autre, enfin, celui qui s'occupe de nous là. Mince. Oui, il dit qu'il n'atteint pas du tout à la liberté. Parce qu'évidemment, l'opposition dit liberté d'expression. Donc il y a Odile Morin qui intervient, il y a les élus un peu LFI, enfin, je ne sais pas LFI d'ailleurs, mais en tout cas des élus qui interviennent pour un peu dire pourquoi vous faites ça. Et il dit non, t'as pas du tout à la liberté d'expression. Mais vraiment pas du tout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, s'ils font ça, ils ne peuvent pas racheter. Enfin, ce qui est incroyable. Enfin, et il dit ça tranquillement. Et donc, tout ça pour dire que c'est vraiment un peu hallucinant.
Oui, et en même temps, il y a quand même eu un arrêté pour interdire l'événement à cas parti. Du coup, à la fois, c'est pas non plus possible de tout faire. Il n'y a pas que la question du rachat, c'est aussi de dire que certains événements qui s'y passent sont jugés comme contraires aux intérêts de l'État, quoi.
Bah alors là, je pense que ce qu'il dit, c'est... d'ailleurs, c'est quoi l'argument? C'est peut-être, y a pas trouble, souvent, ils disent trouble à l'ordre public, c'est un truc qui est bien assez. Et en plus, ils ont une méthode vraiment dégueulasse, c'est qu'ils disent ça, ils sont venus à 18h, au moment de l'intervention de... Gwenola Ricordo, merci. Parce que normalement, ça fait deux jours avant et on peut le contester très rapidement au tribunal administratif. C'est quelque chose que c'est des trucs qui peuvent des recours qu'on peut faire très rapidement, quoi. Sauf qu'ils font à 18h, ça fait qu'on n'a pas le temps de faire de recours vu que c'est maintenant. Donc ils font ça de plus en plus comme ça. Voilà, ils annulent et on peut rien faire.
Ouais, et puis le paradigme un peu de tout ça, par exemple, c'est vraiment tout ce qui se passe. Et ce qui s'est passé autour du soutien à la Palestine et à la dénonciation du génocide toujours en cours. C'est-à-dire qu'on a eu quand même des décrets qui disaient que manifester pour la Palestine, c'était une atteinte à la dignité humaine. Un truc complètement délirant. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est atteinte à la dignité humaine, on peut interdire, etc. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle est cadrée. Mais c'est juste délirant en termes de faits, quoi. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que l'administration passe complètement au-dessus des faits. Elle vient écraser des trucs et je pense que c'est moi ce qui m'intéresse. Pourquoi faire ce truc-là au moment de la chapelle, au moment de la vente de la chapelle? Je pense que c'est quand même un bel os à ronger ensemble, de se dire en fait qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que la chapelle ça devient un lieu commun, c'est notre lieu à nous, il est commun, qu'est-ce qu'on défend et comment est-ce qu'on se défend vis-à-vis de ça de manière plus générale que ce qui nous attaque nous directement, dans un moment où on a l'impression qu'on prépare la société civile à la guerre. C'est-à-dire, en fait, tu peux rien dire contre parce que, etc. Tout le monde doit avoir le doigt sur la couture, quoi. Alors, je pense pas que ce soit juste une vision paranoïaque. Je pense vraiment que l'administration et tout un tas de gens qui même la campagne de Moudin qui a été autour de ça, les faits ont été complètement, je veux dire, on allait démanteler Airbus, machin, etc. C'était complètement dingo, quoi. Et la presse, voilà, la détresse locale dit rien, etc. C'est-à-dire vraiment les faits n'ont plus vraiment de valeur. C'est-à-dire nos paroles, elles n'ont plus vraiment de valeur. Les travaux qui ont été faits à la chapelle perdent de la valeur, etc. Et on nous embobine avec des trucs. Bon voilà, donc arriver à avoir une analyse commune pour essayer de trouver des ripostes qui sont aussi à l'intérieur de ce même droit, hein, c'est ça qui est certainement bizarre à certains endroits, c'est-à-dire qu'il s'agit d'acheter la chapelle, voilà, y a quelque chose qui est tombé dans la pièce d'à côté. Voilà, on nous attaque. je crois que c'est un vélo qui est tombé.
Non, pas.
C'est un... Donc voilà.
Et ce bail emphytéotique, lui, il court encore pendant longtemps. Peut-être que ça, c'est... Enfin, je veux dire, ils peuvent pas... Enfin, je sais qu'ils peuvent tout, mais ils peuvent pas fermer la chapelle comme ça, si.
Bah, déjà, tu peux faire une fermeture administrative, comme n'importe quel lieu. Enfin, tu vois, pour n'importe quelle raison, d'ailleurs. Enfin, on va pas aller dire ici, parce qu'on va pas des idées, mais il y a plein de raisons de fermer administrativement un lieu. Et en fait, un bail emphytéotique, ça a un objet. Alors, évidemment, nous, quand on l'a signé, on a mis un objet très, très large. Mais on voit bien que là, ils peuvent inventer, trouver des trucs, des paroles de chansons, ils peuvent dire un truc et dire, bon, en fait, vous êtes sorti de l'objet, vous faites plus. D'ailleurs, ce qu'ils disent, c'est ça, c'est qu'on fait pas assez de culturel, de machin. C'est ce qu'ils disent au conseil municipal, c'est que la chapelle a changé cette dernière année. Que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, c'est devenu une radicalité. Et bon, enfin, en vrai, j'espère que ça a toujours été, en fait, mais elle aurait changé. Alors voilà, elle aurait changé. Et donc voilà, il n'y a plus de raison. On avait signé un bail avec des gens. Ces gens-là ont changé, donc on ne peut plus revendre, c'est ça qu'ils disent. Et donc ils pourraient bien sûr remettre en question. Donc là, ils suspendent sur 3 ans. On ne sait pas pourquoi 3 ans. On ne sait pas pendant ce temps-là qu'est-ce qu'eux ils vont faire. On n'en sait rien. Bien sûr que la chapelle peut, ils peuvent faire rendre ce bail caduc et on redeviendra squatter le temps que ça se passe, quoi.
Il va y avoir d'autres attaques.
Oui.
En fait, ils peuvent essayer, mais typiquement pour attaquer un bail emphytéotique, il faut aller au tribunal. Donc en fait, c'est complètement différent de là juste au conseil municipal où il a pris une décision juste du fait du prince, en fait. Donc ça serait quand même une logique un peu différente et après on s'y préparera et on s'y prépare pour justement essayer de contrer ça.
Mais il va y avoir d'autres attaques, ça peut être sur l'hygiène, ça peut être sur l'interdiction d'une autre journée, etc. Il va y en avoir d'autres.
On dit qu'on ne donne pas d'idées.
C'est clair et net. Oui, mais ils les ont déjà, c'est ce qu'ils ont fait à Myris. Et on discutait avec quelqu'un hier, en préparation de ce truc-là. Il y a beaucoup de lieux culturels qui ont disparu ces dernières années. Bon, le plus emblématique, c'est Mixar Myris, mais en fait, il y a aussi le pavillon Mazar, le théâtre du Hangar, etc., et puis d'autres. Et ce que disait cette personne-là, qui semblait un peu frayée dans ces endroits-là, disait à chaque fois, les personnes pensaient être un peu... c'était qu'eux qui étaient attaqués, et ils allaient s'en sortir avec un peu d'astuce et d'espièglerie. Sauf que ça marche pas. Et il y a vraiment quelque chose qui est assez fort. Alors moi, c'est une analyse très personnelle, mais comme le reste au final, mais je le dis maintenant parce que c'est peut-être plus important. Il y a beaucoup d'histoires d'immobilier dans ces affaires-là. Mmh. Je veux dire, ils vont pas nous lâcher un lieu en centre-ville à 100 000 balles, quoi. Je veux dire, à un moment, ils se disent, mais c'est pas juste pas possible, quoi. C'est la bourgeoisie a pas envie de ça. Ils peuvent faire un profit dingue là-dessus. Moudinc a reçu plus de 400 000, 500 000 euros de dons de campagne, certainement aussi sur cette campagne, mais on ne le sait pas, mais sur la campagne précédente, par des notaires et des immobiliers. C'est-à-dire, c'est vraiment...
Qui voulait racheter la chapelle ?
Non, c'est pas qu'ils veulent racheter la chapelle, c'est qu'ils...
De façon plus générale, il y avait un article de Mediapart, justement, sur le fait qu'il y a tout un cabinet d'architectes où tous les architectes qui font partie de ce cabinet ont filé le maximum légal, 7500 euros pour la campagne de Moudinc. Okay. Il y avait aussi des boîtes de BTP, etc., etc. Mm-hmm.
Et il y avait un gars qui disait quelque chose de prémonitoire, il disait « Je suis de gauche, mais quand même, j'aime bien Moudinc. » Il avait filé 7000 balles, quoi. Ouais, il dit ça dans un article de Mediacité.
De qui tu parles
Le gars, mais je sais pas, j'espère qu'il est,
l'architecte.
Anonyme. Ouais.
Après, il faut se rappeler qu'historiquement, l'avantage de la chapelle, c'est que la mairie avait acheté le bien peu cher au diocèse, en fait. Donc, ce qui a protégé longtemps la chapelle, c'était qu'on pouvait facilement retourner l'argument si la mairie voulait faire beaucoup de bénéfices sur la vente du lieu. Ça signifiait aussi qu'ils avaient arnaqué l'église. Donc, c'était quelque chose, puisqu'ils n'avaient acheté que 230 000 euros le lieu.
Qui, l'église elle-même l'avait reçu d'un don.
D'un don d'une particulière qui, à sa mort, l'avait légué au diocèse avec une clause morale comme quoi le lieu devait être voué à perpétuité au culte.
Ils n'avaient pas le droit de le vendre, normalement. Ils ont cherché à le vendre et la mairie a fait préemption. En je sais plus quelle année, mais on chercherait.
C'est pour ça que ça s'appelle toujours la chapelle, pour rester culte.
Ok, et si on veut aider dans ce truc-là, il y a quelque chose à faire, les gens, les usagers, les usagères, se tenir au courant, il y a quelque chose de...
Bah déjà, venir aux événements, donc je rappelle les dates, évidemment les infos vont sortir, mais il y a le 13 mai, le 27 mai, c'est pour nous aider à réfléchir là-dessus, vraiment, ça me paraît important. Si vous avez participé, si vous avez utilisé la chapelle pour une réunion, une AG, un collectif, une soirée, n'hésitez pas à faire des lettres de soutien au nom de votre asso, de votre collectif, ça peut toujours servir si Procédia, si même le faire valoir. En fait, là, on est en train de faire un historique, on essaie de remonter, donc on a trois commissions différentes. Il y a les vieux qui s'occupent de il y a 20 ans, il y a les moins vieux là qui s'occupent des 10 dernières années, et puis l'équipe là qui fait cette année. Mais voilà, l'idée c'est quand même de rappeler tous ces gens-là, déjà pour qu'ils soient au courant, qu'elles soient au courant de ce qui s'y passe. Encore une fois, pourquoi pas faire une lettre de soutien, de dire moi j'ai fait ça, ne serait-ce de raconter ce qui s'est fait quoi. Moi j'ai pris la chapelle, j'ai fait un événement pour parler de ça, pour truc ça, et c'est important qu'on ait ces lettres. On n'a pas encore vraiment lancé un appel là, mais en vrai, si vous le faites déjà, c'est super chouette. Et venir y faire des choses, venir le faire vivre, c'est chouette quoi. Il y a encore un peu de travaux, de toute façon, toujours. Il y a encore. Il y a la relâche tous les lundis. D'ailleurs, vous pouvez venir faire la bouffe pour vos collectifs, et l'argent des repas et la moitié du bar sera pour vous, je crois. Vous pouvez venir parler de vos luttes le lundi soir à la relâche. Et c'est pas mal déjà.
C'est pas mal. Vous avez envie de rajouter autre chose ?
Non, après, la chapelle a toujours eu vocation à avoir une histoire dans la durée longue. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye justement d'anticiper au maximum et de prévoir les différentes possibilités d'attaque ou comment justement on peut essayer de se débrouiller pour contrer ça et continuer à faire vivre le lieu.
Oui, s'il y a des compétences juridiques, en fait, il y a quand même des commissions qui bossent là, clairement, sur le sujet et qui sont ouvertes, dans la mesure de la confiance. Mais en vrai, non, c'est ouvert. S'il y a des gens qui sont motivés pour travailler, pour faire un travail d'archive, appeler les assos, travailler sur le juridique, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de taf. Donc n'hésitez pas à venir filer la main. Le lundi, de toute façon lundi vous pouvez contacter des gens, sinon vous passez un mercredi soir en réunion Atelier Idéal, vous envoyez un mail, on se capte quoi, il y a encore plein de choses. Puis il y a des assos qu'on a créés, donc tout ce micmac qui est assez sympa, mais en vrai c'est quand même une petite usine à gaz, donc il faut les faire vivre ces assos là. Donc pareil, si vous avez des petites motivations, les AG sont trop longues, les AG sont trop fastidieuses, si des gens sont forts en animation d'AG, parce qu'en plus nous on se retrouve, quand on en parlait hier, à animer des AG, en même temps on donne notre avis, en même temps voilà, c'est un peu le bordel. Donc s'il y en a qui sont juste, s'ils savent animer des AG et les faire en dynamique et que les gens ne fuient pas au bout d'une heure et demie, c'est chouette aussi. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire.
Et là, est-ce qu'il y a des échéances un peu fixées ou on ne sait pas trop et de voir qu'est-ce qui se passe ces prochains temps?
Pour l'instant, tout ce qui est juridique, donc ça dépend des conseils qu'on a qui sont en cours. Donc là, pour l'instant, ça dépendra de ce que diront les professionnels sur ces sujets-là. Et après, le lieu continue à vivre avec différents événements qui sont planifiés, qui vont être organisés au courant de l'année.
Et puis moi, j'ai l'impression que ce qui se joue aussi, c'est même ce qui se joue dans l'utilisation du lieu. C'est comment faire pour que ce lieu il reste une propriété d'usage et un lieu d'expérimentation. Et pas qui se renferme dans un fonctionnement un peu enfermé quoi. Et je pense que c'est tout l'enjeu d'un achat aujourd'hui, d'un achat en propriété d'usage et dans le contexte qui est là, de à la fois se battre pour le garder et puis se battre pour le garder ouvert et accessible comme il a toujours été. Avec des hauts et des bas et des grosses discussions, et c'est ça qui est chouette. Et je pense qu'on a besoin de garder un ancrage comme ça et de se dire voilà, donc moi j'attends avec impatience la prochaine grosse AG à la chapelle avec beaucoup de gens, si c'est appelé à un moment.
Ça, c'est une AG qui est ouverte, et est-ce qu'il y a une date ou pas?
Eh ben non, là c'est compliqué. Ouais. On a
une discussion.
Si, en fait, on peut inviter des gens. Bon, vous n'aurez pas de pouvoir de décision, mais en même temps, il n'y a pas de masse de décision. C'est surtout des âgés où on discute entre nous. Et on discute, mais là, voilà, rien n'est validé. C'est un peu dommage. Enfin, on pense à faire une réunion publique, mais on est en train d'en parler. Rien n'est. On en parlera justement à cet âgé, savoir si on l'a fait ou pas. Il y a des gens qui ont envie de faire ça. Et donc là, vraiment, ce sera ouvert. Mais il ne faut pas hésiter à. Voilà, si. Aussi, si vous avez quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord, regardez Américo, c'est pas gêné. Donc, si vous avez des choses à dire ou quoi, n'hésitez pas à nous dire, quoi, vraiment.
Il l'a dit avec un petit ton, non? C'était un petit ton de reproche, non?
Il y a un petit ton de reproche.
Il y a un ton de reproche. Ça m'a semblé, non? Tu couperas le reproche.
Bien sûr. Et je voulais dire aussi que le 25 avril, il me semble, il y a le collectif Autonomie, qui est un collectif de mineurs non accompagnés qu'on a souvent invités, enfin qui sont souvent venus à Bras Zéro, qui font une journée pour les 10 ans du collectif, je crois. Voilà, 25 avril à La Chapelle.
Trop bien. 10 ans du collectif Autonomie qui a quand même commencé à La Chapelle, quasiment. Parce que,
non, t'exagères.
Bah, quasiment, je veux dire, ils étaient quasiment tout le temps là, hein, au début.
Bah, au début, non. Après, au bout d'un an ou deux, ils sont venus à La Chapelle pendant un an. Ouais.
Ah ouais.
Non, d'abord, c'était chez l'habitant, tu sais.
Ah oui.
Ça a commencé comme ça. Et après, ils ont ouvert des squats.
Ah, t'as une petite histoire avec
On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas. Et,
merci à vous.
Bonne vie à La Chapelle.
Merci, Bras Zéro.